Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Ça va bien? Tu vas bien?
Eh bien écoute, ça va très très bien et toi?
Bah écoute, ça va bien, ça va bien. On va voir si on va être, si cet épisode de SmackDown nous a mis bien aussi, ou s'il nous a mis dans le mal. Je vous rappelle que donc c'est le Go Home Show, direction Hell in a Cell, ce dimanche. La vidéo des pronos, viendra un petit peu plus tard, probablement ce week-end. Dans cet épisode de SmackDown, spécial Go Home Show justement, Kevin Owens et Shane McMahon font un tour à la boutique de souvenirs. Shinsuke Nakamura tente de communiquer. Le baron est dans une mauvaise phase. Dolph Ziggler rejoint la fanfare et le sharpshooter redevient une arme fatale. Shinsuke Nakamura, justement, qui ouvre le bal. Il est interviewé par Renee Young après son entrée, évidemment, qui a soulevé les foules. Dans un charabia hein, qu'on lui connaît bien à Shinsuke Nakamura, il nous sort un texte assez simple où il dit que, si mes souvenirs sont bons, que grosso modo, il n'a pas vraiment été touché par les attaques qu'il a subies de la part de Jinder et que grosso modo, il va lui botter le cul ce dimanche. Rien de très exceptionnel. Il est justement interrompu, cette interview in-ring est interrompue par les frangins, les Singh Brothers, qui annoncent l'entrée du champion, hein, toujours à leur habitude, hein, où ils font très bien leur entrée, ils maîtrisent très bien leur job. Ils ont comme maître à penser Edge et Christian, hein, ça il faut le savoir.
Ah d'accord. Ouais.
Je crois que j'en ai déjà parlé. Ils sont allés les embêter plusieurs fois et Edge et Christian sont très ouverts à aider les petits jeunes, à leur donner quelques conseils et on sent qu'ils sont de plus en plus à l'aise. Rassurez-vous, tout n'est pas positif hein, évidemment dans cette séquence. Et alors que on nous annonce le champion, le champion n'arrive pas par devant, le champion qui est un heel, arrive par derrière, il attaque Nakamura, passage à tabac du japonais qui tente tant bien que mal de riposter, de placer son Kinshasa, mais ça ne passera pas, il est pris par le nombre, le champion indien célèbre, cet opener d'anthologie. Je crois qu'à un moment donné, plus tard, il y a eu une interview d'un des deux.
C'est de Jinder.
Tu te souviens ce qu'il dit? Moi, je ne l'ai pas noté.
Écoute, sensiblement, il dit qu'il a battu le héros ce soir de tout le monde et que Nakamura avait sous-estimé son intelligence et que du coup, il allait répéter tout ça dimanche et patati patata.
Bon, alors patati patata. à toi, à moi, ça sera à toi. Est-ce qu'ils ont réussi un petit dernier coup là? Parce que finalement, c'était la dernière chance, quoi.
Ouais, mais c'est trop tard. L'heure de la date de péremption est passée sur cette histoire, avant même le match. Donc du coup, ça arrive trop tard. En plus, j'ai le sentiment que c'est fait un petit peu à l'envers. C'est booké un petit peu à l'envers. On aurait imaginé voir ce segment-là plus tôt dans l'histoire et pas au Go Home Show en fait, parce que c'est un peu la première vraie attaque physique du champion un peu en traître sur le héros. Ça arrive quelques jours avant ce qui est censé être le gros payoff, qui est censé justifier toute la haine du challenger en fait. On aurait aimé voir ça plus tôt et finalement voir ce qu'on a vu la semaine dernière, peut-être avec Nakamura qui arrive enfin à trouver un petit peu de vengeance, peut-être même là du coup au Go Home Show. Enfin voilà, pour moi je trouve que c'est booké à l'envers, parce que là on se retrouve avec finalement des semaines et des semaines d'un Nakamura qui s'en foutait de se faire copieusement agresser et puis qui finalement se fait même avoir comme un troufion la veille du pay-per-view. Donc je trouve pas que ce soit super super bien construit tout ça. Bon, la promo de Nakamura, c'est du Nakamura dans le texte, on comprend quasiment rien. Il a besoin de sa chaperonne dans le ring, Renee Young, pour lui donner la réplique.
Sa chaperonne.
Et puis il s'était transformé un peu en en machine à proverbes chinois, là, j'avais l'impression que c'était un petit cookie
ouais,
chinois.
Sticks and Stones.
Ouais, alors Sticks and Stones may break my bones, je sais pas quoi. Et puis il nous a sorti un autre juste après, je me souviens plus. Enfin, c'était le mec répondait par proverbe. Tu te disais, c'est comme les petits biscuits dans les restaurants chinois que tu casses. Et puis bah d'ailleurs il s'est fait casser la tronche, donc voilà. plus cliché tu pouvais pas faire, et puis en plus on comprenait pas. J'ai eu aussi très peur des petits Singh Brothers, parce que j'entends une tu sais, maintenant ils ont un peu une musique à eux, du coup
oui
un peu Bollywood et tout machin. Et là j'ai eu peur, je me suis dit putain, ils ont changé la musique de Jinder, parce que l'entrée de Jinder, c'est un des trucs quand même qui fait que il est quand même pas trop mal. Mais heureusement non c'est bon. Donc voilà, bon, écoute, rien à retenir, ça arrive trop tard, et je trouve que c'est fait un peu à l'envers.
Tout ça. Ouais, effectivement, et puis ça me fera toujours marrer, moi, que nous jouons encore la petite partition du 3 contre 1, hein, et ça me fait marrer qu'on laisse traîner ça depuis 6 mois, quoi.
Oui, et puis alors personne ne fait rien.
C'est voilà. Ça, bah Shane est trop occupé, on le verra un peu plus tard.
Daniel Bryan,
Il donne le biberon, hein, puis il change les couches, change le caca. Tu parlais d'entrée. Effectivement, Nakamura et Jinder Mahal, les deux choses intéressantes peut-être, ce sont les entrées. Et ben il y en a un autre qui justement pense ça de quasiment tout le roster, c'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui depuis plusieurs semaines hein, nous fait un petit peu son numéro là. Cette fois-ci, c'est suite à une victoire de Bobby Roode hein, qui recatch, ça y est. Hein, il recatch à SmackDown. SmackDown qui, une fois de plus, n'aura pas eu beaucoup de catch hein, cette semaine. Si on a eu 20 minutes de catch à tout casser, c'est déjà pas mal. De lutte entre les cordes, évidemment, j'entends. Et une victoire express donc de Bobby Roode sur Calédonis, qui est de retour lui aussi.
Calzedonia, ouais, je sais pas quoi là.
Une calzotte, s'il vous plaît, monsieur. Calzedonis. Donc interruption de Dolph Ziggler hein, après la victoire express du Glorious One qui veut l'aider. Il veut l'aider. Dolph Ziggler, il vient avec des bonnes intentions. Il veut aider Bobby Roode a trouvé un nouveau theme song, ou alors il veut faire des démos de theme song. En tout cas, il veut nous montrer qu'il sait créer des génériques d'entrée. Alors il nous fait tout. On a droit à la sirène d'ambulance insupportable, le tambour de fanfare, comment ça s'appelle, Cressel, là, le truc que tu fais tourner là.
Oui, je crois que c'est ça. Tu as raison. Hein, c'est exactement le mot. Mais
quand on fait les défilés déguisés du Mardi Gras à l'école, ce genre de choses. Alors, voilà, c'est assez. Les réactions sont absentes, on va dire, hein, dans le public. C'est un silence poli, à part quelques boues et quelques vas de temps en temps. Mm-hmm. Il s'en prend après vraiment directement à Bobby Roode. Il dit après toutes ces années, tu as enfin trouvé un moyen de rejoindre la WWE par la petite porte, hein, backdoor. C'est vrai que Bobby Roode, il l'a toujours dit, il ne l'a jamais caché. Son rêve a toujours été d'aller à la WWE. Il a essayé plusieurs reprises. Hein. Il a fait beaucoup les fameux tryouts hein, où les catcheurs viennent faire des tests. Hein, et tous les 3 mois ou tous les mois, je ne sais plus, comme ça, ils font des... Bah, c'est un peu comme pour les concours pour rejoindre la fonction publique. Hein. C'est le rêve de tout le monde, finalement, de devenir fonctionnaire. Bah, là, c'est le rêve de tout le monde d'entrer à la WWE.
Oui,
ceci dit, quand tu vois
40 ans à Bobby quand même.
Quand tu vois Nakamura, c'est effectivement un peu ça. Hein. Il est peut-être en mode fonctionnaire là, WWE. 40 ans Bobby Roode. Ah ouais, effectivement, il était temps.
Beau quarantenaire. Hein.
Ah, oui, bien bâti. Ouais. Hell in a Cell de Ziggler va le montrer à tout le monde ce que Bobby Roode est, c'est-à-dire seulement une entrée et tout ce qu'il sera. Hein, il sera toujours une simple entrée. La chaîne de micro, évidemment. Une promo assez dure, hein, quand même. Ce truc-là, tu seras toujours qu'une entrée, ça fait assez mal, parce que c'est vrai que, à l'heure actuelle, c'est vrai. Donc, c'est encore ces petites promos de heel qui touchent du doigt la vérité. Oui. Même si là, la forme était un peu longue et un peu difficile. Et la réponse de Bobby, parce qu'au début, il reste un peu quoi, comme ça, genre, il dit rien, c'est des putains, les faces... Pas trop d'ego quoi, pas trop d'estime. Et puis finalement, il récupère le micro Bobby, il lui dit écoute, tu m'as demandé ce que je pensais de tes entrées là, mais en fait, c'était pas terrible, ça manquait un peu de. Et là, il se met en scène et il fait comme ça avec ses mains, il mouline pour chauffer la salle et évidemment, Glorious à travers le stade. C'est ainsi que se termine cette petite rivalité, cette petite échange entre les deux. Est-ce que ils ont réussi à nous booster un petit peu pour cette rivalité?
C'est mieux, c'est mieux. En fait, je garde un peu le sentiment mi-figue, mi-raisin que j'avais la semaine dernière, là. Pas trop savoir. En fait, non, je trouve pas que ce soit
En fait, non.
je trouve pas que ce soit un excellent segment, mais encore une fois, je saurais pas trop vraiment dire pourquoi, parce que Dolph Ziggler fait une bonne promo, je trouve. C'est intéressant. En fait, à mon avis, je pense que finalement, ce qui me gêne le plus, ouais, après 2 semaines de cette rivalité-là, c'est le manque de répondant de Bobby Roode, en fait, là-dedans. Il y a deux choses. Il y a ça, il y a le manque de répondant de Bobby
Bah,
Roode,
Dolph
et puis il y a
Ziggler fait tout là, ouais.
ouais, et puis le fait que, en fait, je comprends. Ok, on en est arrivé. Voilà, Dolph Ziggler, il s'est trouvé une tête de Turc, on va dire,
Oui.
pour incarner ce qu'il essayait de démontrer depuis 4 semaines. Mais en fait, pourquoi avoir mis 4 semaines pour arriver à ça, ce qui est au final assez faiblard quand même comme rhétorique et comme argumentaire, et surtout qui n'a pas l'air de faire sourciller Bobby Roode du tout. Donc en fait, je trouve qu'on a un petit peu du mal à se plonger dans cette rivalité, parce que ça a beau être vrai, ce que dit Dolph Ziggler ne réinvente pas le catch. Enfin, la WWE, c'est ça. Bobby Roode est là en face, il le regarde. Oui, ok. Il lui fait une pauvre vanne en lui disant que son entrée était horrible, et puis il s'arrête là. Il y a pas, je pourrais pas dire ouais, j'ai vraiment envie de les voir se cogner dessus dimanche. Non, ok. Voilà, Bobby Roode, c'est qu'une entrée. Bon. On verra en effet dans le ring ce qu'il va donner, mais je trouve que voilà, ça manque un peu de punch. Et puis pourquoi attendre une semaine avant le pay-per-view,
Ouais, c'est
encore une
ça.
fois, encore une nouvelle fois, alors qu'ils avaient tout le temps. Ils nous ont fait 3 semaines de chienlit avec Dolph Ziggler qui nous faisait ses entrées, ses entrées, ses entrées, pour finalement rentrer dans le vif du sujet 5 jours avant le pay-per-view. Donc je ne j'ai pas trop compris pas trop compris l'intérêt du truc.
Ouais. Bah
Bon,
écoute, ça
après.
ressemble pas mal à ce qu'on disait juste avant avec Nakamura et Jinder Mahal, où il y a une mauvaise utilisation du temps là qui leur était alloué en termes de faire monter la sauce et l'intensité. Les autres zigotos, ils ont fait le truc un peu à l'envers, ça je suis d'accord avec toi. Là, ils ont attendu vraiment le dernier moment pour arriver à une évidence.
Il
Donc
y
en
a des
plus,
bonnes idées, il y a
comme
des
tout le
bonnes
monde
idées.
l'attendait, comme enfin, c'était éventé que ça allait être Bobby Roode, il n'y a même pas eu de surprise sur l'opposant. Et c'est vrai que la rivalité n'en est pas arrivée du tout à un point où t'as envie qu'ils se mettent, que ça se règle entre les cordes.
C'est ça.
Dolph Ziggler ayant fait en plus son petit numéro tout seul dans son coin, Bobby Roode, à la manière d'un Nakamura, a pris les coups dans l'ombre, comme tu dis, sans vraiment
Oui, parce que sa
réagir à ce...
réaction est faible.
Ouais,
Ouais.
c'est ça, réagir, ça l'a... Bon voilà, ça l'a pas touché vraiment plus que ça, donc ouais, c'est
Écoute,
assez étrange, hein. On
voyons
verra.
voir le match de dimanche. Mais bon, écoute, pour l'instant, c'est un peu mou.
On va enchaîner avec une autre rivalité qui oppose cette fois-ci Rusev à Randy Orton. Randy Orton qui avait un match ce soir contre Aiden English, hein,
Oui.
comment on
Le
dit? Le
chanteur,
chanteur
le
d'opérette,
chanteur
comment on appelle dans le cirque là, le Monsieur
Ah, Monsieur
Loyal,
Loyal,
ouais,
d'accord,
Monsieur
ouais.
Loyal de SmackDown. Alors on se souvient pardon que la dernière fois qu'il s'était opposé, Aiden English avait justement fait preuve d'une petite résistance
Résistance.
face à la vipère. Ce soir, il n'en sera rien puisque le match est rapidement expédié d'un RKO. Voilà, on peut pas résister à Randy Orton pendant 10 minutes toutes les semaines. Je retrouve le fil, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a qu'est-ce qui se passe? Rusev, attends. After 1. Ok, Rousseff est dans les parages, visiblement. Ah oui, Rousseff accompagné Eden English. Voilà, c'est ça.
Oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, oui.
Il était là. Rousseff était accompagné bah, gentiment Eden English, hein, puisque Eden English, quand même, est devenu son copain. Et après le match, du coup, Rousseff a tenté une attaque un petit peu sournoise. Mais Randy Orton l'a fait battre en retraite. Et puis voilà, ça se termine comme ça. Il n'y avait pas vraiment forcément de nouveauté par rapport à cette rivalité entre les deux zigotos. Giscal, qu'est-ce qu'on pense de tout ça?
Ouais, écoute, c'était un petit moment du show. C'était rapide, c'était efficace. On n'en demande pas beaucoup plus. Ça reste une rivalité de mid-card. On a vu Aiden English encore faire son petit numéro dans le ring contre Randy Orton, donc c'est très très bien pour lui. On a vu un super... ça c'est les travaux à côté de chez moi, ça.
Je sais pas si oui, okay. Oui, alors dans les studios de catch-up, on a grandi, hein, forcément. c'est objectif 2020, objectif 2020.
On a vu un super beau RKO, donc tout le monde est content.
En fait, oui, voilà.
C'est un peu le petit segment où tout le monde est content. On a vu un peu Rousseff, on a vu un peu Aiden English, on a vu un beau RKO. La suite dimanche, voilà, ils ont pas besoin de beaucoup plus de temps. Moi, ça m'allait, on va dire. J'avais pas de grief particulier sur ce segment.
Alors, on enchaîne avec le titre US, le US Title Picture pour être précis. Ce soir, vous savez, c'est la triplette entre le Baron, Ty Dillinger et AJ Styles. Ce soir, on met de côté une fois de plus l'Open Challenge et c'est le Baron qui affronte Ty Dillinger. Ty Dillinger, hein, qui était un petit peu la victime du Baron ces derniers temps. Et ben cette fois-ci, Ty Dillinger va avoir sa revanche puisque il va battre le Baron après un match serré entre les deux. Il le bat. Comment il le bat à la fin?
Avec un roll-up.
Ouais, c'est ça. Voilà, un roll-up. Évidemment, le Baron qui était trop occupé. À provoquer, hein. Il est lazy, hein, le Baron.
C'est ça, il est très lazy. Ouais.
Donc du coup, il se fait avoir cette fois-ci. Sa fameuse corde à linge où il sort et il rentre dans le ring ne fonctionne même pas. Il est allé contrer et quand il a tenté la suplex, eh ben il s'est fait contrer dans un small package, comme on dit, roll-up pour la victoire. Après le match, AJ Styles apparaît sur le titantron, il me semble, et il dit oui au Baron que c'est un gros con, que c'est un jackass, qu'il gâche ses opportunités à chaque fois, que ce soit contre John Cena ou pour
la mallette,
cacher la mallette, et que ce dimanche, dans son match pour le titre US, il n'autorisera pas le Baron à tenter de prendre les fameux shortcuts, hein, on en parlait la semaine dernière en disant que c'était le nouveau mot, c'est le mot de l'année à la WWE. Rendez-vous donc est pris pour ce dimanche et il n'y aura pas de triple frite, hein,
sauf retournement de situation.
Est-ce que finalement c'est alors bon, c'est bien de laisser les deux se mettre sur la tronche. Est-ce que c'est pas étonnant finalement de pas voir Ty Dillinger se faufiler dans la title picture, notamment suite à cette victoire sur le Baron?
Complètement, complètement. Encore une fois, le show. Je me demande s'il y a un GM ou un commissioner dans la place.
On a construit quand même ce match et l'histoire, le Go Home Show. On l'a construit pour amener un triple.
Complètement. Complètement, complètement. Donc c'est assez incompréhensible qu'il n'y ait pas d'annonce dans la foulée pour inclure Ty Dillinger dans l'histoire.
Ça aurait bien chauffé, hein, en plus la salle.
Ouais, ça aurait fait plaisir. Ça avait du sens par rapport à tout ce qui se passait depuis 4 semaines, parce que je trouvais qu'ils avaient une dynamique qui marchait pas mal tous les trois. Ty Dillinger fonctionne plutôt bien dans le ring avec le Baron sur des petits exercices comme ça assez courts. Je trouve qu'ils ont deux styles très compatibles, surtout avec une foule. Là, à Denver, qui marchait pas trop mal pour eux. Mais du coup, sans le triple threat, c'est vrai que je suis un peu perplexe et je trouve presque que c'est assez mal. Enfin, s'il n'y a pas de triple threat au bout, c'est assez mal raconté parce que au final, déjà rien ne justifie que Baron Corbin puisse. être toujours légitime dans cette affaire. Il perd juste avant le pay-per-view, donc ça pour moi c'est un très très mauvais call des bookers, et ce sera pas le seul ce soir, donc on pourra en reparler. Mais pour moi ça n'a finalement que peu de sens, parce que qu'est-ce qu'on essaye de nous raconter, et ce que AJ Styles a retranscrit après derrière dans sa promo, c'est vrai que Baron Corbin est dans une sale passe. Qu'est-ce que du coup pour moi c'est pas une histoire qui est très efficace quand on arrive dans un pay-per-view, un heel soi-disant qui fait son fonds de commerce, hein, qui fait son argent sur martyriser les gentils, être dominant dans la triche, casser la tronche et agacer le public et tout. Finalement, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on le voit un peu se faire ridiculiser et perdre. Et puis bah là, du coup, le champion arrive très fort au pay-per-view. C'est pas vraiment comme ça qu'on imagine une histoire un peu avec le Baron ou avec AJ Styles. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire pour dimanche? J'avoue que je suis un peu paumé, parce que pour moi ça a pas beaucoup de sens. Donc voilà, à moins qu'ils rajoutent Ty Dillinger. Et encore, je trouve que c'était pas vraiment le bon plan de faire perdre le Baron encore une fois comme ça. Donc voilà, un peu perplexe aussi sur ce segment.
Je te rejoins, effectivement, c'est vraiment bizarre. C'est des rivalités, on va dire, secondaires. Enfin, c'est une des rivalités qui étaient les plus intéressantes à suivre, qui était plutôt bien écrit, avec une bonne dynamique. Et pour une fois qu'ils arrivent vraiment à faire ça de façon très organique, à arriver à un triple threat de façon très organique, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est un peu forcé. Ils s'en privent. Alors bon, pourquoi pas, c'est un choix, mais du coup, effectivement, l'emphase, la rivalité entre le match-up, on va dire, entre AJ Styles et le Baron, et pas au top, quoi.
Il perd de sa superbe, quoi, le match. Hein.
La balance est vraiment déséquilibrée. En plus, comme on les voit pas catcher, on les voit pas affronter d'autres catcheurs, c'est de l'entre-soi là pendant 6 semaines, c'est difficile de d'être chauffé, quoi, parce que tu les vois là, il y en a un coup ils s'envoient une petite vidéo ou ils sont en commentaire, mais bon, ça monte pas pour autant, donc assez étrange. Effectivement, le Baron qui perd, qui passe vraiment pour un gros loser depuis SummerSlam là, on se demande où ils veulent en venir. Voilà, si c'est pour nous avoir par surprise une fois de plus ce dimanche.
Faut voir, encore une fois, tout dépend un peu des matchs de pay-per-view.
Ouais. Bon, on enchaîne avec l'autre porteur ou porteuse de mallette. Cette fois, elle l'a toujours. C'est Carmella. Ce soir, elle a un match avec Natalia qui les oppose à Charlotte et Becky Lynch. Donc la top card de la division féminine est de retour entre les cordes. Donc c'est un match un 2v2, hein, évidemment. Avec l'opposition Charlotte et Natalia qui doit être mise en avant, puisque un match les attend toutes les deux ce dimanche. Donc Charlotte et Becky donc affrontent Natalia et Carmella, les babyface qui ont le contrôle du ring. Après on a une pause pub évidemment, et là c'est Lille qui reprennent le dessus.
Toujours.
Becky Lynch est isolée. Puis au tag sur Charlotte qui va dérouler son arsenal. Ringside, on a Carmella qui est avec toujours l'autre James Ellsworth, qui est toujours en laisse, hein, évidemment attaché au turnbuckle,
et oui,
qui se débarrasse de Becky Lynch en la poussant à l'extérieur du ring. Carmella frappe Becky Lynch avec le briefcase. Ce qui crée une petite distraction. Natalia place Charlotte dans le sharpshooter. Charlotte, votre babyface, la reine la plus forte d'entre toutes les catcheuses de la WWE, abandonne sur une prise qui ne faisait plus forcément abandonner aussi facilement. Victoire de Natalia et Carmella. Est-ce que c'est ce match dont tu parlais avec cette défaite du face?
Non, bon, bah, ça c'est, enfin, pour moi, c'est ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment. Je ne comprends pas comment. Enfin, on peut renier le béaba du booking de catch comme ça. Enfin, de toute façon, cet épisode est une catastrophe de A à Z, je trouve. Mais enfin, comment tu peux te mettre le doigt dans l'œil comme ça jusqu'à l'omoplate, hein. Enfin, c'est impressionnant. Voilà, 5 jours avant le pay-per-view, ta challengeuse, soi-disant number one de la division, vient de taper en 3 secondes en plus. Hein. C'était très rapide. Hein. Elle s'est pas débattue. Hein. Très rapide, pas du tout de travail sur les jambes. Enfin, rien qui pourrait justifier dans le match que Charlotte soit affaiblie au point de succomber à la douleur atroce du sharpshooter en 2 secondes. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, pareil. On perd complètement le faible intérêt qu'il pouvait y avoir dans ce match pour dimanche, parce que voilà, la championne, que va faire la championne, elle est manifestement pas assez forte pour battre la challengeuse. Donc est-ce que ça vaut le coup de regarder le match? Je sais pas, je suis pas sûr. Voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, parce qu'à côté de ça, le match était pas terrible. Puis en plus, ils profitent de leur rare temps de catch à l'antenne pour nous coller des pubs qui font quasiment toute la durée du match, donc j'ai pas vu grand chose.
Ouais.
Non, c'était pas bon.
Non, ouais, je te rejoins. Il y a un souci de. Alors, c'est toujours pareil, ce qui se passe en weekly par rapport à ce qui se passe dans les pay-per-view, c'est. Une fois de plus, il peut y avoir vraiment quasiment 2 mondes différents où le temps se raccourcit vachement, et le temps que tu mets avant d'abandonner est plus court que lors des gros matchs de pay-per-view où effectivement t'es dans un sharpshooter, t'es une quadruple championne, ancienne quadruple championne, challengeuse en titre, tu vas pas taper au milieu, enfin à 1 mètre des cordes dès la première prise au bout de 2 secondes. Tu vas au moins une première fois aller chercher la corde ou réussir à contrer ou quoi. Là, c'est difficile à croire, à mordre, si effectivement il n'y a pas derrière tout ce que offrent habituellement les weeklies, c'est-à-dire des interventions ou mettre le challenger dans des conditions tellement contre lui que effectivement bon il a tapé mais parce que l'autre lui a pété les côtes en le tapant avec une barre de fer dans le dos de l'arbitre, voilà.
Okay.
Là
tu
fais putain, et là ok, là t'es chaud, tu fais putain, là au pay-per-view ça va pas se passer comme ça, etc. Donc là ça c'est la base, quoi. Là, faire abandonner, et c'est pas la première ni malheureusement la dernière fois qu'on en parle, hein. Je sais qu'à Raw aussi on a parfois ce genre de choses où effectivement on se retrouve avec des babyface qui tapent très rapidement là où enfin ils devraient pas, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une mauvaise construction une fois de plus dans ce,
ouais. Et puis Carmella qui est la porteuse de mallette, qui travaille main dans la main avec Natalia aussi, enfin c'est, il y a aucun teasing de petites tensions ou de, enfin je sais pas, c'est, il y a tout sonne faux, quoi.
Ça va pas être facile de pronostiquer, on verra ça dans la vidéo des
mais
pronos,
oui, parce que ça n'a pas de sens en fait tout ce qu'ils nous font, donc c'est compliqué d'essayer de lire quelque chose.
Bon, écoute, on va changer de division, direction la division tag team, où on monte un cran quand même, je pense, en qualité. Ce soir, les Ouzo vont, ils vont jouer vachement sur c'est faut être anglophone, hein, pour voir le, ils vont jouer vachement sur les mots, ils vont lire au New Day leur droit.
Ça.
Donc, pénitentiaire, etc. Donc, les Ouzo arrivent, ils sont au milieu du ring, et dans leur style qui leur est propre, hein, toujours aussi intense, violent, énervé, mais vraiment ultra maîtrisé.
Oui.
Les Ouzo s'attaquent au New Day, ils disent que voilà, ils seront les bienvenus au pénitentiaire, que il n'y aura pas de boutillos, de rainbows et de trombones, et qu'ils vont mettre les New Day, la division tag team on lock. Ils clament qu'ils, voilà, ils ont poussé, hein, la tag team division à un nouveau niveau, hein, que c'est vrai que effectivement ils peuvent se réclamer de ce fait, et dimanche ils deviendront les 5-time tag team champions. Les New Day arrivent, interruption des New Day, et là, alors, du coup, il y a un petit jeu de mots, puisque les Usos leur ont lu leurs droits, leurs rights, ils vont parler des lefts, et et du coup, alors, je sais plus comment ils ont formulé ça, mais c'était du genre, alors déjà, ils font une petite blague sur le fait que cette fois-ci, ils sont pas venus faire des blagues et vendre leur merchandising, sauf qu'ils le font quand même en montrant leur slip
ouais.
New Day.
Très très beau boxeur New Day. Ouais,
ah
fait.
Ouais, ouais. Avec la petite ceinture dessus. Alors je sais plus du coup comment ils ont joué.
Du coup, celle que j'ai en tête parce que c'était la meilleure, mais enfin, en effet, il y en avait plusieurs. C'était que du coup, ils vont quitter Hell in a Cell en tant que champion parce que they are going to left Hell in a Cell as champions. Donc il y a eu ça, mais
ils vont laisser aussi, je sais plus, ils vont les laisser au milieu du ring. Enfin, ils vont les laisser pour
ça,
mort,
tout,
quoi.
Tout autour du verbe laisser en français,
c'est
on va
ça.
Dire voilà.
Et c'est ça. Et ils vont quitter donc left en tant avec la ceinture W. Et puis là, on a évidemment Xavier Woods qui ressort ce petit. Voilà, en tournant sa tête, son corps et tout ce qui va avec. Et puis, ah oui, il parlait aussi dans une pile de Day One Ish. Ils leur font, on va vous laisser.
Ah oui.
Ouais, donc voilà, ça joue vachement parce que les Usos se réclament du coup être là depuis Day One. Hein, c'est leur
titre,
c'est toujours leur catchphrase, c'est leur moto. Ils sont, ils ont leur t-shirt, etc. Et quand les New Day quand les Usos battent un peu en retraite et quittent le ring, ils ont comme ça le doigt levé numéro 1 pour dire ok, rendez-vous sur le ring. Donc voilà, on a toujours ces grosses promos là assez intenses entre les deux. On a effectivement moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ils assument complètement leur statut de mecs qui ont sauvé la division tag team et qui sont au top du top dans leur domaine.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était vraiment une excellente promo des Usos qui ont développé, je trouve, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont développé un truc qui est vraiment à eux dans leur façon de faire leur promo. Donc, du coup, tout de suite, je trouve que c'est assez captivant et t'as pas envie de lâcher parce que cette façon de délivrer les, enfin, c'est un anglicisme là, mais en tout cas de déclamer leur texte leur est totalement propre et avec ses côtés un peu alternés, un peu agressif, super agressif. Il y en a un qui crie presque et l'autre qui est plus calme. Enfin, c'est très particulier, donc je trouve que c'est vraiment très bien fait. Les New Day ont été bien aussi dans leur style. Toujours, je trouve que dans cette rivalité, on arrive à bien jongler entre le sérieux, les blagues. On reste quand même intense. Ils ont une sacrée histoire avec des sacrés matchs. J'ai bien aimé le fait que le New Day mettent over la rivalité et les Usos aussi dans leur discours en disant que ça fait 3 ou 4 pay-per-view maintenant qu'on est là et qu'on fait le putain de meilleur match de la soirée.
Ouais, c'est ça, le main show,
ouais, et qu'on vole le show et tout. Et ils ont d'une certaine façon, ils ont raison, ils font des excellents matchs à chaque fois et c'est pas loin d'être à chaque fois les meilleurs. Donc ça, c'était bien aussi de le remettre devant et ça donne encore plus d'importance à ce qui vraiment semble être le chapitre final dimanche. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un segment qui est bien mené, qui donne envie de voir le match dimanche et qui justifie carrément la stipulation, l'animosité, la hype et tout. Donc non, c'était bien bien foutu.
Bon, écoute, je me joins à toutes tes louanges. Moi, je suis chaud bouillant. Surtout que ce sera un match en cage. Hein.
Ouais, Hell in a Cell. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire.
Quelle va être la dynamique en sachant qu'il y en a
un 2v2 du coup.
Comme c'est un 2v2, où sera le troisième? Est-ce qu'il sera à l'intérieur? Est-ce qu'il sera à l'extérieur?
On sait pas.
qui ça va être?
Plein de questions.
Ouais, on n'en sait rien, mais je suis sûr qu'on va avoir des. Ça promet des spots et des séquences assez incroyables. Donc certainement un des matchs les plus attendus pour ce dimanche. Le deuxième match, si ce n'est le premier match le plus attendu, en tout cas celui qui a droit à un traitement hollywoodien, c'est évidemment la rivalité première hein, de SmackDown qui oppose Kevin Owens hein, qui a snappé, hein, qui a pété un câble, et l'ancien GM, puisqu'effectivement on parlait tout à l'heure, il n'y a officiellement pas de GM à SmackDown, il n'a pas été remplacé, il me semble, l'ancien GM.
Alors, il est, je sais pas, comment ça, GM, c'est toujours Daniel Bryan.
L'ancien commissionnaire, pardon.
Ah oui, bon, je sais pas s'il a, il est toujours, il est pas toujours commissionnaire ou il a été démis.
Il non, a été démis de ses fonctions, hein.
Ah bon?
Bah pour pouvoir justement catcher et ne plus
ah oui ok d'accord
ne plus ouais, justement d'accord. Que okay. Kevin Owens ne puisse pas poursuivre même s'il a arrêté c'est il a abandonné toute forme de poursuite et que maintenant ça se règle d'accord, entre okay. les cordes mais pas que puisque là il va falloir s'accrocher on va nous vendre un... une stipulation assez infernale. Ah bah. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé exactement. Alors on a une petite promo de on a une promo de Shane. Qui va rapidement arriver là où il veut en venir, puisqu'il dit qu'il va changer les règles. Hein, voilà. Dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bah, le mec qui est un peu, enfin, il est plus commissionnaire, mais bon, il change les règles au dernier moment. C'est un peu bizarre.
Je sais plus quoi faire.
Ouais, c'est ça. Je veux changer les règles. Bon, ok, dimanche, attendez. On a dit Hell in a Cell, mais en fait, je veux changer les règles parce que voilà, j'ai un peu peur de perdre. Alors, je vais changer les règles. C'est, il dit ce sera donc un L in puisqu'ils se mettent sur la tronche sera un L in a cell false count anywhere.
Voilà.
Ok, donc on en qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire qu'en grosso modo, donc ils vont avoir un match en cage, mais que le tombé pourra se faire non seulement sur le ring, ce qui est normalement la seule façon de faire le tombé ou la soumission, mais qu'en plus ça pourra se faire en dehors du ring. Tout en restant dans la cage, hein, puisque il y a un morceau de O-ring dans la cage, hein, et ouais, ça pourra se faire aussi à l'extérieur de la cage, en haut de la cage, dans un hélicoptère s'ils veulent, hein, y a pas de problème. Mais voilà, donc une stipulation qui fait évidemment rire pas mal de monde et qui est un petit peu what the fuck.
Oui, légèrement, ouais.
Puisque, alors, est-ce que il joue avec le fait, est-ce que c'est une blague, toi, du méta, genre, ok, on sait qu'à chaque fois qu'on fait un Hell in a Cell, ça se finit toujours à l'extérieur, et du coup, là,
ouais,
on désamorce le truc.
Non, mais oui, c'est ça, mais tu peux pas dire ça à l'écran, c'est pas possible.
Surtout avec l'intensité, en fait, vraiment, genre là, et ce sera un match en cage, où on pourra faire des tombées à l'extérieur, et là, les gens sont... Ouais, on est chaud.
Ok. non mais, ça, enfin voilà. De toute façon, cet épisode de A à Z, je n'ai rien compris.
Alors, ouais. Surtout que ça a été construit une fois de plus à l'envers, puisque en fait toute la séquence qui va suivre, qui était très longue, aurait pu conduire à cette stipulation qui est rajoutée.
Exactement. Tu as complètement raison de rappeler ça, puisque encore une fois, c'est fait à l'envers, puisque on place une stipulation et on vient
la justifier après. Quoi. Ouais.
Après.
Alors justement, je vais dire ce qui s'est passé et puis après on va pouvoir débattre de tout ça. Donc Kevin Owens, la voix de Kevin Owens retentit des gradins. Il est là, il est tout en haut. Il mime de rejoindre le ring avant de se raviser et Shane le traite de lâche, de coward. Et il va chercher lui-même. Et c'est un piège puisqu'arrivé en haut des escaliers, passage à tabac de Kevin Owens qui l'attendait. Et là, passage à tabac à la buvette. Hein, rendez-vous à la buvette comme dans les anciens bals au village. Hein, on se donne rendez-vous à la buvette pour se battre. après avoir mangé quelques t-shirts hors de prix. Alors j'avais lu que c'est à un moment ils se sont retrouvés. Shane finit à travers la boutique de souvenirs en fait. Hein, ils sont devant. Il y a toujours cette séquence où en fait ils ont barricadé.
Oui, c'est toujours très drôle.
Il se met un cordon sanitaire, cordon sanitaire autour d'une boutique de souvenirs et t'as une foule de plusieurs centaines de personnes de part et d'autre qui ont bien vu qu'il allait se passer quelque chose, qui ont quitté leur siège pour voir ce qui allait se passer. Donc voilà. Et puis t'as les mecs et les vendeurs qui sont toujours là en se disant mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Bonjour Monsieur Owens, vous voulez acheter un petit t-shirt
bleu s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. Alors on prend la carte seulement à partir de $30. Hein. Et donc powerbomb, hein, Shane finit en powerbombé difficilement, hein, un peu en mode sandbag là. Kevin Owens qui a eu, Kevin Owens et Shane McMahon qui ont eu du mal, mais ils ont réussi quand même hein, à placer la power bomb et à péter la table. Il y avait probablement un t-shirt de Sami Zayn. Je suis sûr, il a choisi là où il y avait le t-shirt de Sami Zayn là où il a power bombé l'ancien commissionnaire. Donc Kevin Owens rejoint le ring. Ça a pris beaucoup de temps. Hein, rejoint le ring. Il déclare qu'avec cette nouvelle stipulation, dont il est d'accord avec. Il dit, pour une fois, je suis d'accord avec Shane McMahon. Cette stipulation-là tombe à pic. Bah oui, effectivement, vu ce qui vient de se passer, on peut comprendre, d'accord, maintenant, oui, ok. Shane, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Il veut pouvoir battre Shane sur le ring, en dehors du ring, dans la cage, en dehors de la cage. C'est vraiment construit à l'envers. Il va lui arracher la chair sur le grillage et le power bomber jusqu'à ce qu'il en oublie le nom de ses gosses. Voilà, toute cette agressivité, hein, mentale, psychologique de notre Kevin Snap Owens. Et pas d'inquiétude sur le fait que Shane saute du haut de la cage, puisque Kevin Owens s'en chargera de toute façon. Grosso modo, il va le balancer et que cette fois-ci, il ne s'en relèvera pas. Puisque à chaque fois, il s'en relève, c'est vrai. Il survit au crash hélicoptère, il survit au saut de cage encore plus haut que celle de Mick Foley. Mais Shane est de retour. Alors là, ouais. On va très loin dans le... On rappelle quand même que Shane est le seul mec à s'être relevé. Alors il y a peut-être excepté peut-être Brock Lesnar à s'être relevé du spear de Roman Reigns. Souvenez-vous, c'était au Survivor Series. Alors on pense qu'il s'est relevé. Il était dans un état second quand il s'était relevé du spear. Mais bon. Ok, on a bien compris que Shane, il est incassable. Donc Shane est de retour, il descend péniblement les escaliers sous les twerks d'une spectatrice avinée. Alors il faut voir ça, c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Donc en fait, il descend et t'as une fille qui est là, qui a son smartphone et qui twerk.
Que fait la sécurité?
Que fait la sécurité? Que fait le respect de l'être humain? Et le respect quand même aussi des... Enfin... Je sais pas, on est dans une, ouais, c'est comme ça maintenant, génération, il faut se voler le show, les spectateurs veulent le spectacle, mais là, je sais pas, enfin, ta chaîne qui est là en mode, je descends, je me suis mangé et tout, je montrais que je suis, enfin, c'est un moment censé être intense, c'est bien que c'est bien quand ça déraille, mais là, c'était juste ridicule, bref.
Ah oui, non, je pense qu'elle a dû, elle a pas dû avoir l'occasion de voir 205 Live dans la foule, elle a dû se faire sortir, je pense.
Bref, Shane est de retour, mais c'est une mauvaise idée pour Shane, hein, puisqu'il finit en miettes, éclaté contre les tables, il est power bombé, voilà. C'est un avant-goût, hein, de ce qui sera la plus grosse affiche de la rentrée, on en est sûr. Du coup, voilà, comme on l'a dit, la stipulation, c'était encore une fois booké à l'envers. Je rajouterais quand même qu'on a eu droit à un putain de package vidéo juste avant cette séquence qui a duré genre 5 minutes en mode hollywoodien pour nous rappeler toute la rivalité. On sent, c'est la tête d'affiche de ce
package
dimanche.
C'était magnifique, ce package.
Avec de la musique. À un moment, des musiques, on aurait cru Interstellar. J'étais là, j'en pouvais plus. Je suis allé écouter la BO d'Interstellar en me disant, mais oui, c'est la même musique et tout. Enfin, il y avait vraiment, ils ont mis tous les moyens. Bon. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette séquence, mon ami Giscal?
Bon, je peux pas dire que j'ai pas kiffé parce que c'est vrai que c'était un beau segment de main event et pour moi c'était la hype, enfin c'est de la hype pure parfaite pour dimanche. Donc en matière de go home show, tu peux difficilement faire mieux. Le babyface est écrasé, genre dérouillé, mais en même temps montre toutes ses capacités de résistance, voilà. Donc Owens a donné un avant-goût, on va dire, de tout ce qu'il allait faire subir à Shane McMahon. Shane McMahon dimanche, il l'a vraiment démoli dans les grandes largeurs et tout. Donc difficile de pas se sentir on a vraiment envie de voir la suite, de à quel point ils vont pouvoir pousser le carnage dimanche dans la cage. Mais pas que, parce que il y a cette stipulation, alors qui n'a aucun sens. Enfin, autant être clair, hein, parce que ça n'a ouais, aucun sens. Peu importe qu'on désamorce le truc pour dire ah oui, bon, vous qui savez comment ça fonctionne le catch et tout, bon bah voilà, sachez que on va aller en dehors de la cage. Non. On ne dit pas ça, enfin, ou sinon on ne book pas un match en cage. Ça n'a aucun intérêt. Alors, est-ce que ça veut dire que la cage va être volontairement, la porte va être ouverte? Je sais pas. Non, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de porte dans un Hell in a Cell. Donc, il n'y a même pas de. Donc, non, on peut même pas jouer là-dessus en disant, bon, bah écoute,
non,
on va mettre une cage en laissant la porte.
Tu as raison, il n'y a pas de porte.
Non, il n'y a pas de porte. Donc, du coup, c'est stupide. On annonce d'entrée de jeu que,
c'est
que on va pouvoir sortir. Si ça avait été un cage match où il y a une porte à la limite et on dit Shane peut dire c'est un false count anywhere, on va commencer dans la cage mais laisser la porte ouverte.
Ouais,
on
mais
va
attends,
suite la...
non, là, ça aurait été encore plus ridicule parce que le principe d'un cage match c'est le premier qui sort. Donc si
non, non.
false
ah oui,
count
en plus,
anywhere.
Oui, c'est vrai, en plus, oui, non, mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Enfin, bon, bref.
Leur donne pas de
manière,
mauvaises idées.
Non, non, ça, enfin bref, ça n'a aucun sens. On annonce d'entrée de jeu que la cage ne sert à rien. Donc bon, écoute, ils ont probablement prévu des spots de ouf dans l'arène et tout. C'est pour ça qu'ils préfèrent se, ils ont peut-être préféré se couvrir là-dessus. Mais ça m'agace parce que genre on casse quasiment volontairement le kayfabe là en disant ça parce que c'est ça n'a aucun sens. C'est complètement stupide. Bon, après je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va s'éclater devant ce match dimanche parce que Owens fait un travail vraiment de rêve, que ce soit en promo
voilà.
ou dans le ring. Avec Vince, avec Shane, avec Sami Zayn depuis des semaines là pour enfin vraiment ils portent la feu de la tête et des épaules. D'ailleurs le package vidéo est magnifique.
Ouais.
Pendant 5 minutes c'est le Kevin Owens show la vidéo hein. C'est des promos de Kevin Owens, c'est des power bombs, c'est que ça, c'est le Kevin Owens show. Je pense que c'est une feu de référence pour lui pas vis-à-vis du public mais dans sa carrière à la WWE. Je pense qu'il a eu vraiment en termes de carte blanche et de confiance. On lui a vraiment laissé les clés du camion sur cette rivalité. Et je pense que voilà, ça, il a marqué énormément de points et le match de dimanche sera un peu la cerise sur le gâteau. J'ai confiance dans le fait que ça va être un gros truc. Donc bon, je suis content pour Kevin Owens, mais j'arrive pas à me relever de cette stipulation. Mais genre, c'est incroyable. Bon, okay.
T'as l'impression que c'est limite un gag quoi.
Allez-y, faites ce que vous voulez. Tout ça.
Mais c'est vrai que moi en plus, c'est vrai que t'as raison. Enfin, l'histoire de la porte, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que oh mais c'est bon, comme il y a une porte, c'est vrai que bon,
y a même pas de porte.
Mais c'est vrai qu'il y a pas de porte. Enfin déjà les
donc
mecs
ça sont... veut dire qu'à un moment ils vont nous péter la grille. Ils vont faire comme je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont trouver un moyen. Parce qu'il y a un toit sur elle.
Il y a un toit, enfin voilà, pas remonter la grille ou la découper ou.
Ou alors Shane McMahon va dire à un moment à l'arbitre remonter la grille. Je sais
peut-être
pas,
que tu peux sur demande.
Ouais.
Bon voilà, ouais. En tout cas, c'est la rivalité de ce dimanche. On arrive au mot de la fin. Ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, jusqu'à là.
Allez. Mon top, eh ben écoute, mon top, c'était la promo de Kevin Owens. J'ai trouvé encore une fois cette semaine, il vend le match et quasiment il vend le pay-per-view à lui tout seul parce que derrière ça se bouscule pas. Et encore une fois cette promo, je vais te balancer du haut de la cage, je vais te faire oublier le nom de tes enfants et tout. Enfin, il a pété un câble, il est absolument hors de contrôle et j'ai adoré encore une fois sa prestation. Donc je vais lui donner mon top. Et mon flop, bon, il y en avait un beau paquet cette semaine, mais c'est sans conteste de très très loin Charlotte qui tape sur le sharpshooter de Natalia. Alors là, au secours. Non mais on renie, parce que je sais pas, on a filé la feuille à un singe et il a écrit le script de cette semaine. Je sais pas. Et puis la note, pour moi c'était de mémoire récente le pire go home show que j'ai vu d'un point de vue s'il y avait pas les deux matchs Hell in a Cell, parce qu'au final c'est les deux seuls qui ont
c'est
été vendus.
C'est pas le hasard, mais effectivement on se retrouve avec les deux rivalités les mieux construites sont celles qui se retrouvent en cage.
Ouais. Je peux pas dire qu'il y a aucune autre rivalité qui m'intéresse, mais en tout cas, si je me place d'un point de vue de Go Home Show, là, le pay-per-view est dimanche. Clairement, si j'ai autre chose à faire, je peut-être le regarderai en replay, tu vois, si je me mets à la place d'un Américain. Donc non, je vais mettre 1,5. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une mauvaise émission avec les trois premiers quarts d'heure, mais horrible. Ouais. Bah, vraiment la première moitié de l'émission horrible.
Ouais. Bon, écoute, moi, mon top, je le donne aux Usos pour leur promo toujours aussi intense. Mon flop, je le donne à Bobby Roode, parce que franchement, on l'a pas vu depuis 3 semaines et là, c'était quand même l'occasion de montrer un peu plus d'intensité.
Service minimum.
Voilà.
Ouais.
Trop service minimum pour moi. Tu peux pas faire ça. Et ma note, alors je suis un peu moins sévère que toi. J'ai mis 2. Allez, je mets 2. J'avais mis 2,25, mais en fait, c'est vrai que, en fait, à part les promos des frangins et la promo de, enfin, la séquence finale, il y a rien, quoi. Donc, et je suis d'accord avec toi, il y a trop d'incohérences, trop de mauvaises décisions et trop peu de hype. Si on le note en mode gomme show, ouais. 2,25 si c'était pas un gomme show et 2, c'est un gomme show et encore.
Ça, je me mets en mode, voilà, c'est pour moi, c'est le gomme show de Hell in a Cell, je juge voilà, comme ça.
Un gomme show, c'est une fonction, une mission, et là, n'était pas rempli. Catch up, c'est votre podcast qui résume, analyse toutes les semaines les shows de la WWE. Nous, c'était SmackDown, on analyse également Raw. L'analyse de Hell in a Cell, ce sera pour après ce week-end. D'ici là,
ça peut pas être avant. Hein.
si on bookait nos podcasts comme ils bookent les stipulations à WWE, on pourrait le faire dans l'autre sens. On va vous balancer également nos pronostics d'ici là. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube pour la vidéo, sur iTunes, PodCloud et toutes les plateformes de podcasts pour la version audio, et vous abonner et ne manquer comme ça aucun épisode, ça tombe directement dans vos cages à miel. lescahiersducatch.com pour retrouver la plume de certains de nos chroniqueurs. Twitter, Facebook, c'est Catchup CDC évidemment. Commentez, dites-nous, partagez, quel est votre top, quel est votre flop, quelle est votre note, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes hypé là pour Hell in a Cell? Nous on est hypé pour 2 matchs sur 8. C'est pas beaucoup quand même, non? Alors, est-ce que vous êtes hypé pour d'autres matchs? Qu'est-ce que vous attendez de ce Hell in a Cell? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Gomme Show? Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Dites-nous tout.
C'est vrai que c'est intéressant, ça. Oui. Ça peut être plus intéressant que pas mal de segments.
Si vous pouvez finalement, on devrait nous remettre des séquences de bouffe comme ils faisaient avant.
Ils nous ont encore mytho sur la Fashion Police.
Ils nous ont mis encore une quenelle pour la
Fashion. Non, mais ça commence à me gonfler, ça. Hein. Bon, apparemment, ils seront à Hell in a Cell.
Ouais, d'accord. Ouais, bon, on n'y croit plus. Hein, j'y croirai quand je les verrai. Giscal, encore merci pour ta présence et ton analyse, hein, toujours au top du top du top.
Merci Irem pour ta présentation et ton analyse au top du top du top.
Ah, t'es trop gentil. Bon, allez, rendez-vous la prochaine fois. Salut!
Salut tout le monde. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va. Je suis un peu crevé là, mais ça va.